100% d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, montée des populismes, restriction des libertés, désinformation, comment se porte la démocratie en Europe ? Lorsqu'on regarde des critères comme la corruption, l'indépendance de la justice ou encore des médias, qui sont aussi des conditions de la démocratie, le tableau n'est pas très brillant. Comme en Hongrie par exemple, où depuis son retour au pouvoir il y a 11 ans, le dirigeant du pays Viktor Orban a mis les médias publics complètement à sa botte. Au total, ce sont près de 500 organes de presse qui diffusent une information partisane ou font carrément de la désinformation après avoir été rachetés par des proches du pouvoir. Dans ce contexte, comment continuer à faire son travail de journaliste ? C'est le reportage de notre correspondante Florence Labruyère.
En Hongrie, la télévision et la radio publiques sont totalement contrôlées par le gouvernement. Difficile de savoir dans quelles conditions les journalistes y travaillent. Ils n'ont pas le droit de donner d'interview. Toutefois, un reporter d'un média indépendant a mené l'enquête. Akos Keller-Alant a eu accès à des enregistrements réalisés en secret pendant une réunion à la télévision publique. Il nous raconte ce que disent ces enregistrements.
On entend le rédacteur en chef dire aux journalistes « Ici, ce n'est pas l'opposition qu'on soutient ». J'ai vu aussi des emails de la direction dans lesquels les journalistes sont sommés de ne pas parler des LGBT. Au moment des élections américaines, la télévision hongroise a attendu plusieurs jours avant de donner les résultats, comme les médias d'extrême droite aux États-Unis. Quant à la pandémie, les journalistes ont ordre de montrer qu'en Hongrie, la situation est moins grave qu'ailleurs en Europe.
Bien que le clan de Viktor Orban ait racheté et fait fermer des journaux et des radios, il reste une dizaine de médias indépendants en Hongrie. Alors qu'en Russie ou en Turquie, les journalistes sont intimidés, emprisonnés et parfois assassinés, en Hongrie, ils exercent leur métier en toute liberté, du moins en théorie, car dans la pratique, les choses sont bien différentes, comme le raconte Babette Orossi, qui travaille pour un magazine indépendant, l'hebdomadaire économique HVG.
Quand le Fidesz est revenu au pouvoir, au début, ça allait. Au Parlement, on pouvait rencontrer les députés et le gouvernement répondait à nos questions. Mais peu à peu, ça s'est gâté. Aujourd'hui, les journalistes n'ont plus le droit de parler aux députés dans les couloirs du Parlement. Le gouvernement ne répond plus à nos questions. Et on n'est plus invité aux événements.
Cela fait un an que la journaliste Babette Orossi demande au gouvernement des informations sur l'énorme contrat que la Hongrie a signé avec la Chine pour construire une ligne de train à grande vitesse entre Budapest et Belgrade. La loi donne aux autorités un délai de 3 mois pour répondre à la presse. Passé ce délai, elles doivent communiquer les informations. Mais Babette Orossi n'a reçu aucune réponse.
On n'a pas posé de questions compliquées. On a simplement demandé quelles étaient les entreprises choisies pour ce marché public. Il s'agit d'un énorme chantier de plus de 700 milliards de forints. C'est de l'argent public et donc on veut savoir où va cet argent. Mais les autorités ne nous ont pas répondu. Alors on a été obligé de leur faire un procès pour avoir les infos.
Le magazine de Babette a donc porté plainte devant le tribunal. Il vient de gagner en deuxième instance. L'État est condamné à transmettre les informations demandées, mais il va sans doute faire appel. L'affaire risque de durer 2 ans. En général, les médias indépendants gagnent leur procès, mais 2 ans plus tard, les informations ne valent plus grand-chose. Autre stratégie pour intimider les journalistes, les ministres de Viktor Orban ne cessent de poursuivre en justice les médias indépendants. Csaba Lukács est directeur de La Voix hongroise, un magazine conservateur mais critique du gouvernement.
L'un de mes collègues a eu 12 procès sur le dos, tout cela parce qu'il avait écrit sur une affaire de corruption en région. Il a gagné ses 12 procès, mais toutes ces audiences, ça lui a fait perdre au moins 20 jours de travail. Sans compter que le journal a dû avancer l'argent pour payer les avocats. C'est la stratégie du gouvernement pour intimider les journalistes, les submerger sous les procès. Comme ça, ils auront moins envie d'écrire des articles contre le gouvernement.
Pour Viktor Orban, les médias sont un outil pour bloquer l'alternance. Moins il y a d'articles critiques, moins les Hongrois seront tentés de changer de gouvernement. Échapper au contrôle du quatrième pouvoir et à celui de l'Union européenne, C'est le souhait de Viktor Orban, un souhait maquillé aux couleurs du souverainisme, observe le politologue Attila Haag.
Orban n'a que ce mot à la bouche, souverainisme, souverainisme. Pour lui, cela veut dire avoir une coopération limitée avec l'Union européenne. Bruxelles nous envoie de l'argent, le reste nous regarde et l'Union n'a pas à intervenir dans nos affaires.
Des ONG ont déposé plainte auprès de la Commission européenne. Selon elles, le conglomérat médiatique bâti par le clan de Viktor Orban exerce un monopole. Il viole donc les lois européennes sur la concurrence. Mais la Commission tarde à réagir. Et pendant ce temps, Viktor Orban continue à réduire l'espace démocratique dans son pays. Blade.
Si la Hongrie, la Pologne et la Slovénie font partie des démocraties en recul, il y a tout de même sur le continent des raisons d'espérer. Parmi les bons élèves, il y a l'Irlande. La petite île du nord-ouest de l'Europe est un exemple de consensus, surtout pour les réformes sociales, avec ses fameuses assemblées citoyennes, véritable espace démocratique. Les explications d'Emeline Vin.
Dernier exemple en date, la décriminalisation de l'IVG. C'était en 2018, un référendum approuvé à 66%, un résultat écrasant pour ce genre d'exercice, d'autant plus dans un pays à forte tradition catholique comme l'Irlande. Pour comprendre comment le pays en est arrivé à un tel consensus, il faut remonter près de 2 ans en arrière à l'établissement de l'Assemblée citoyenne. 100 citoyens tirés au sort pour respecter la diversité démographique, ethnique, religieuse du pays, qui se sont réunis quasiment tous les week-ends pendant 18 mois. Leurs débats ont été retransmis à la télévision pour que tout le pays puisse les suivre. Ils ont invité des grands témoins pour avoir autant d'avis que possible sur la question. Une prise de temps, de recul, d'information qui a donc abouti à un référendum relativement apaisé. Évidemment, il y a eu une opposition assez féroce, mais le résultat a semblé plutôt largement accepté. L'IVG est aujourd'hui gratuite, légale et accessible à toutes, même si dans les faits, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Depuis, d'autres pays ont suivi l'exemple, comme la France avec sa Convention citoyenne sur le climat. Le gouvernement irlandais a donc décidé de recourir aux mêmes méthodes pour sa prochaine réforme. L'Assemblée citoyenne sur l'égalité entre les femmes et les hommes a déjà proposé l'organisation d'un référendum, un peu retardé par la pandémie. Il s'agira cette fois de modifier l'article de la Constitution qui indique que la place de la femme est à la maison.
La République serbe de Bosnie fêtait dimanche les 30 ans de sa création. Un anniversaire célébré avec faste par Milorad Dodik, le président nationaliste qui vient tout juste d'être sanctionné par les États-Unis. Milorad Dodik s'est en effet engagé dans un processus de sécession de l'entité serbe qui pourrait aboutir dans les 6 prochains mois. Portrait de l'homme qui pourrait faire imploser les Balkans et dynamiter les accords de Dayton qui avaient mis fin à la guerre en 1995, avec Daniel Valo.
C'est le 10 décembre dernier au Parlement de la Republika Srpska que le processus de sécession de l'entité serbe a été officiellement lancé. À la manœuvre, Milorad Dodik, 62 ans, le dirigeant des Serbes de Bosnie qui a adopté depuis une quinzaine d'années une posture nationaliste hostile aux accords de Dayton et à l'État fédéral de Bosnie-Herzégovine dont l'entité serbe est l'une des parties constituantes. Un positionnement radical qui tranche avec ses débuts en politique beaucoup plus modérés, c'est ce que nous rappelle Loïc Trégourès, enseignant en sciences politiques à l'Institut catholique de Paris et spécialiste des Balkans.
C'est effectivement quelqu'un qui, à la fin des années 90 et au début des années 2000, était vu par les Occidentaux comme quelqu'un sur lequel éventuellement on pouvait compter pour écarter les nationalistes serbes du pouvoir en Bosnie. Et dans un premier temps, c'est ce qu'il a fait. Enfin, dans les interviews de 1996-17, il disait que Karadžić devait être envoyé à La Haye. Dans ces années-là, il n'avait pas de problème à reconnaître que ce qui s'était produit à Srebrenica était un génocide.
Aujourd'hui, Milorad Dodik n'hésite pas, au contraire, à glorifier des auteurs de crimes de guerre condamnés par la justice internationale. Le dirigeant des Serbes de Bosnie a également mis tout son poids politique dans la balance pour faire avancer la cause sécessionniste. Aline Kateu est doctorante en anthropologie. Nous l'avons jointe à Sarajevo, où elle réside.
Ça fait 15 ans que Dodik dit qu'il veut faire sécession. Bon, bah là, il le fait. C'est-à-dire qu'il a annoncé son plan, il suit son plan. Et il n'a absolument aucun obstacle devant lui. Le problème, c'est qu'à force d'en parler et de regarder, de se dire « alors on passe de l'étape 2 à l'étape 3, de l'étape 3 à l'étape 4 », Oui, un jour, on va se réveiller avec une entité qui aura effectivement fait sécession et qui se sera dotée de moyens légaux.
Un scénario cauchemar pour les habitants de Bosnie-Herzégovine qui gardent en mémoire les horreurs de la guerre.
On est face à une population civile qui est totalement traumatisée. Si vous allez de nouveau brandir des armes ou la menace des armes ou la menace de la violence, quelle que soit sa forme, les gens vont très 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 vite et très fort réagir à ça en mettant en place des stratégies de protection. Il y a eu quand même, je dirais pas vraiment un mouvement de panique, mais enfin il y a eu quand même 2 semaines où tout le monde était très 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 nerveux, quoi.
Le processus de sécession lancé par Milorad Dodik ravive des souvenirs douloureux chez les musulmans et les croates, mais également parmi les habitants de l'entité serbe de Bosnie. D'ailleurs, selon Loïc Trégourès, ce projet de sécession ne recueille en réalité que très peu de soutien au sein de la population.
Non pas qu'ils sont opposés à éventuellement une sécession, mais ils disent « ceci va nous mener à la guerre » et les gens n'en veulent pas. Ce qui se passe avec Milorad Dodik, c'est que c'est quelqu'un qui se sent en danger sur le plan politique après les élections de l'année dernière, l'élection municipale de l'année dernière, et donc il joue son va-tout. Mais il n'y a pas de mouvement populaire derrière ça. Et vous n'avez pas, dans les rues de Banja Luka ou d'ailleurs, des gens qui descendent dans la rue en disant « bravo Milorad, en avant la sécession ».
Sur la scène internationale, Milorad Dodik peut compter sur le soutien de la Serbie et de la Russie. Et, pour l'heure, sur la faiblesse des réactions du côté occidental. Si les États-Unis ont décidé de sanctionner le dirigeant des Serbes de Bosnie, l'Europe reste pour l'heure quasi muette sur un sujet pourtant explosif, comme l'a montré à maintes reprises l'histoire du XXe siècle.
Il est un petit pays en Europe qui, depuis des siècles, cultive la défense des libertés. C'est ainsi que la Lituanie est devenue la terre d'accueil des opposants au régime biélorusse ces derniers mois. Mais Vilnius n'hésite pas non plus à croiser le fer avec la Russie et la Chine, à dénoncer les atteintes aux droits de l'homme imputables à Moscou ou à Pékin. La Lituanie, ce pays hyperactif du combat démocratique, c'est le reportage de notre correspondante Marielle Vituro.
Ces dernières semaines, le nom de Lituanie revient fréquemment dans les médias internationaux. Le plus souvent, dans un contexte particulier, la défense de la démocratie en Biélorussie ou sur l'île de Taïwan. Pour le professeur de sciences politiques Andrzej Puchto, cela n'a rien d'étonnant.
La direction prise par la politique étrangère est inscrite noir sur blanc dans le programme de la coalition. Le principe fondateur de cette politique, ce sont les valeurs. Les droits de l'homme prévalent sur les intérêts économiques.
En effet, il y a un an, les trois partis de la coalition ont posé leur signature en bas d'un document qui stipulait qu'ils étaient prêts à défendre la lutte pour la démocratie de la Biélorussie à Taïwan. Au Parlement, Matas Maldeikis est le député qui s'occupe des relations avec l'île chinoise.
Notre histoire est liée à l'Union soviétique et nous savons ce que cela veut dire de vivre à proximité d'un géant communiste qui use de sa propagande et de ses moyens. Nous avons envoyé de l'aide en faisant parvenir des vaccins. Ouvrir une représentation là-bas est aussi un geste pour montrer que l'on soutient la démocratie.
Ce n'est pas la première fois que la Lituanie se positionne ainsi sur la scène internationale. En 2008, déjà, lors de l'occupation par la Russie d'une partie de la Géorgie, Vilnius avait clairement pris position, comme le rappelle Andrzej Puchto.
Le président Adamkus s'était rendu avec le président polonais Kaczynski à Tbilissi. Ils sont allés sur la ligne de front pour montrer au monde entier que la Russie cherche à entraver la Géorgie sur le chemin vers la démocratie.
Vaidotas Benouchis dirige la rédaction du site d'information 15 minutes. Soutenir la démocratie à Taïwan relève aussi pour ce petit pays balte d'une nécessité géopolitique.
Les trois priorités de la politique étrangère américaine sont la Chine et encore la Chine. Si la Lituanie veut rester dans le giron américain et conserver un lien fort avec les États-Unis, elle doit s'intéresser à cette région.
L'anticommunisme farouche des conservateurs qui domine la coalition gouvernementale explique en partie aussi ce positionnement contre la Chine. Et ce, même si un récent sondage publié sur le site du média public lituanien révèle que l'engagement de la Lituanie vis-à-vis de Taïwan reste en grande partie incompréhensible du grand public. L'île est trop loin des préoccupations des Lituaniens. Par ailleurs, ces engagements pro-démocratie n'empêchent pas la Lituanie de refouler, depuis début août, les migrants qui arrivent à sa frontière avec la Biélorussie. En l'espace de 4 mois, elle a procédé à plus de 7800 refoulements. Mais cela n'entame pas son image de défenseur de la démocratie, comme le relève Veidotas Benouchis.
Jamais on n'aurait pu penser que la Commission européenne allait autant soutenir la Lituanie et sa tactique de refoulement des migrants. La Lituanie a réussi à convaincre ses partenaires, bien mieux que la Pologne. Je pense que ça a à voir avec l'image de la Lituanie, un petit pays très européen.
L'avenir appartient aux audacieux, surtout quand on est un petit pays par sa taille et son poids économique. Pour la Lituanie, être visible sur la scène internationale en défendant les valeurs démocratiques est surtout la meilleure des assurances-vie pour assurer sa sécurité face à ses grands voisins.
Mon européenne, c'est pas la Bruxelles, mon européenne, c'est pas Genève, c'est pas la Thune qui marche ou crève, tu sais moi, mon européenne.
Alice Rouja, bonjour.
Bonjour.
La semaine dernière, la France a pris la tête du Conseil de l'Union européenne, elle va y siéger pendant 6 mois. Les jeunes, dans tout cela, ont-ils des attentes concernant cette gouvernance ?
On va déjà tenter d'expliquer en quoi consiste cette présidence. Pendant 6 mois, la France va chapeauter et coordonner les réunions ministérielles dans chaque domaine de compétences, l'occasion d'accélérer des dossiers qui lui tiennent à cœur, même si, en théorie, elle ne doit pas imposer ses choix. Là où ça nous intéresse vraiment, c'est que parmi les grandes lignes mises à l'agenda par la France figurent la transition écologique, la justice sociale et la fracture numérique, avec l'envie de faire participer la jeunesse aux décisions à venir.
Concrètement, ça veut dire que les jeunes européens vont être impliqués dans cette présidence ?
Disons que les autorités françaises voudraient qu'ils soient régulièrement consultés et intégrés au processus. Une mesure très concrète, par exemple, en France, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a décidé de profiter de cette présidence pour plus parler d'Europe aux jeunes. C'est comme ça que l'année scolaire 2021-2022 a été déclarée année européenne. Bon, pour l'instant, soyons honnêtes, aucun élève n'en a encore vu la couleur, mais à l'issue de cette année, l'ensemble des écoles primaires, collèges et lycées du pays devront s'être engagés dans un partenariat avec au moins un établissement d'un autre pays membre de l'Union.
Alors, il n'y a pas que dans l'éducation nationale que la jeunesse est mise à l'honneur pour cette année 2022.
C'est vrai, après 2 années marquées par la pandémie qui a particulièrement touché les jeunes, le Parlement européen a décidé que 2022 serait l'année de la jeunesse. Et pour que ce ne soit pas que des jolis mots placardés sur des sites officiels, les eurodéputés ont prévu d'investir massivement 8 millions d'euros supplémentaires dans 2 programmes destinés aux jeunes.
Alors, c'est le corps européen de solidarité qui permet aux moins de 30 ans de s'engager bénévolement dans une mission d'intérêt général, et puis évidemment Erasmus+.
Oui, parce qu'Erasmus, c'est bien le programme européen qui rassemble les jeunes des différents pays de l'Union, et ce depuis 1987. Via ces échanges naissent des amitiés, des amours, un excellent moyen de solidifier l'idée d'une citoyenneté européenne, que l'Europe est partout autour de nous, structurant nos quotidiens.
Et pour qu'on entende plus la voix des jeunes, ils ont aussi été massivement invités à participer à la conférence sur l'avenir de l'Europe, un exercice de démocratie participative qui vise à dessiner les contours de l'UE de demain.
C'est vrai, et ils ne se sont pas gênés de donner leur avis via plusieurs plateformes en ligne ou par consultation directe. Au mois de décembre, des eurodéputés sont venus collecter les désirs d'Europe de jeunes lycéens issus des quartiers populaires. C'était le cas en banlieue parisienne, mais aussi à Lisbonne, au Portugal.
Et alors, qu'est-ce que ces jeunes attendent de l'Union européenne ?
Eh bien, que ce soit via la plateforme Parole aux jeunes, qui a mobilisé plus de 50 000 personnes, ou bien en consultation directe, les moins de 30 ans européens ont de sérieuses envies d'Europe, notamment sur le plan environnemental et social. Préférant le train à l'avion par souci climatique, ils proposent une meilleure coordination du rail ainsi qu'une relocalisation massive des moyens de production sur le continent. Ils espèrent aussi une Europe plus inclusive, du moins qu'elle devienne un véritable leader en termes de respect des droits humains. Ça n'aura pas pu vous échapper. En Hongrie et en Pologne, les personnes LGBTQ+, ne sont pas vraiment les bienvenues. Et pour Frineza, c'est une des jeunes femmes qui a été consultée, il faut se donner les moyens de sanctionner les pays, même à l'intérieur de l'UE, qui ne respectent pas les droits de l'homme.
Les jeunes espèrent donc une Europe plus verte, à l'intérieur de laquelle tous les citoyens se sentiraient égaux, quel que soit leur pays d'origine et leur mode de vie. Les résultats de cette conférence seront rendus d'ici le mois de juin. Merci Alice. Accent d'Europe, Françoise Grelot était à la réalisation aujourd'hui. Pour nous retrouver, rendez-vous sur notre site rfi.fr ou sur vos plateformes d'écoute. À demain.